Ce premier amphi de physique statistique est consacré à la description statistique des grands systèmes. Il est constitué de quatre parties: l'équilibre statistique, les systèmes à deux états, la loi des grands nombres et les marches aléatoires. Les systèmes physiques étudiés sont constitués d'assemblées d'atomes en très grand nombre. Il peut s'agir de gaz, de liquide ou de solide, mais aussi de systèmes matériels plus complexes, tels que des assemblées de polymères, c'est-à-dire des longues chaînes macromoléculaires, ou encore des assemblées de particules quantiques telles que des photons, dans le problème du corps noir. Dans tous les cas, il s'agit de systèmes à très grand nombre de particules ou à très grand nombre de degrés de liberté. On peut décrire ces systèmes à deux échelles. À l'échelle macroscopique, le système est décrit par des grandeurs telles que la pression, la température, l'énergie, l'entropie, et on décrit le système à l'aide de lois telles que la loi des gaz parfaits ou encore la relation entre la quantité de chaleur et l'entropie. À l'échelle microscopique, le système peut être décrit par une description continue dans laquelle on voit la position et la vitesse des atomes, ou encore par une description quantique où le système est décrit de façon discrète par des niveaux quantiques. Dans toute la suite, on aura besoin de la mécanique quantique au niveau assez simple de la relation de De Broglie entre la quantité de mouvement et la longueur d'onde, la relation d'Heisenberg entre l'incertitude sur la position et l'incertitude sur la vitesse, ou encore le principe d'exclusion de Pauli pour des assemblées de particules discernables ou indiscernables. J'en viens maintenant à la notion d'équilibre statistique. Dans la vidéo qui va suivre, je considère une assemblée de particules initialement toutes dans le compartiment de gauche et je laisse le système évoluer. Ce que l'on observe naturellement, c'est que les particules tendent à envahir tout le système. Si je m'intéresse à l'évolution du nombre de particules dans le compartiment de droite, initialement, ce nombre petit n est égal à 0 et il va tendre progressivement vers une valeur égale à la moitié du nombre de particules, avec des fluctuations. Si l'on décrit maintenant le système par une probabilité du nombre de particules petit n dans le compartiment de droite, on s'aperçoit que cette probabilité va être piquée autour de cette valeur moyenne avec une certaine largeur. Eh bien, le postulat de la physique statistique de l'équilibre, c'est que le système rejoint un équilibre statistique qui est décrit par une loi de probabilité qui est indépendante du temps. Ceci marque l'irruption des probabilités en physique. Ce sont les physiciens Maxwell et Boltzmann, au milieu du 19e siècle, qui ont décrit la loi de probabilité des vitesses dans un gaz parfait et ont ainsi été les premiers à mettre en avant la nécessité d'une description probabiliste en physique. Plus tard, avec Planck, on verra cette même notion de probabilité intervenir dans la description de la distribution des longueurs d'onde dans un corps noir. J'en viens maintenant à la description de systèmes modèles simples. Il peut s'agir d'un gaz parfait réparti entre deux compartiments. Il peut aussi s'agir d'assemblées de moments magnétiques, aussi appelés spins. Dans les deux cas, il s'agit de systèmes à deux états. On peut décrire ces systèmes de deux façons. Considérons la situation de deux états équiprobables avec n particules indépendantes. Une première notion est la notion de micro-État. On doit, dans un micro-État, connaître l'état de chacune des grands N particules. Alors que, dans la notion de macro-État, on connaît simplement le nombre de particules qui sont dans un des deux états. Naturellement, le nombre de micro-États est beaucoup plus important que le nombre de macro-États. Le nombre de micro-États, que j'appellerai W de petit n, est donné par la distribution binomiale, c'est-à-dire factoriel grand N sur factoriel petit n que multiplie factoriel de grand N moins petit n. Les micro-États sont tous équiprobables. Est ici représentée la probabilité P de n pour grand N égale 10 et grand N égale 50. Vous observez que cette distribution de probabilité est piquée autour de grand N sur 2 et qu'elle est d'autant plus piquée que grand N est grand. Vous observez par ailleurs que cette loi de probabilité tend progressivement vers une distribution gaussienne. Il s'agit d'un résultat fondamental de probabilité qui s'appelle le théorème de la limite centrale, qui exprime le fait que la distribution binomiale tend vers une distribution gaussienne quand grand N tend vers l'infini. Dans tous nos systèmes, les nombres petit n, grand N seront très grands et on utilisera l'approximation de Stirling pour la factorielle. Log de factoriel n est à peu près donné par n log de n moins n plus log de racine de 2 pi n. Cette approximation est satisfaisante dès que n dépasse quelques dizaines. Ainsi, P de n est bien approximé par une distribution gaussienne, par exponentielle de moins n moins valeur moyenne de n au carré, divisé par 2 delta n carré, avec un préfacteur qui vaut 1 sur racine de 2 pi delta n carré. Valeur moyenne de n est égale à grand n sur 2, tandis que l'écart type delta n est égal à racine de grand N sur 2. L'approximation est valable tant que N n'est pas trop éloigné de valeur moyenne de N. Plus précisément, il faut que cet écart ne soit pas plus grand que quelques écarts. On appelle fluctuation relative la grandeur delta N sur valeur moyenne de N. Vous voyez qu'elle est en 1 sur racine de valeur moyenne de N. C'est un résultat fondamental de la loi des grands nombres. Ainsi, les fluctuations sont négligeables dans la limite macroscopique, c'est-à-dire quand grand N tend vers l'infini. Intéressons-nous dorénavant à un système à deux états non équiprobables. Je considère de nouveau mon système à deux compartiments, mais de taille cette fois-ci différente, petit v et grand V. Le nombre de particules est égal à petit n dans la petite boîte, grand N moins petit n dans la grande boîte. Petit n fluctue dans le temps et on peut définir la valeur moyenne de n à partir d'une moyenne temporelle sur une échelle de temps grand t. Les particules sont indépendantes et discernables. On a une probabilité petit p égale petit v sur grand V d'être dans le petit système et q égale 1 moins p d'être dans le grand compartiment. Le nombre de micro-états W de petit n est toujours égal à factoriel grand N sur factoriel petit n sur factoriel grand N moins petit n, mais P de n est cette fois-ci donné par W de petit n que multiplie P puissance n fois Q puissance grand N moins petit n. P de n est toujours donné par une distribution gaussienne. Valeur moyenne de petit n peut être calculé à partir de la valeur moyenne de la variable xi qui indique si une particule est ou non dans le petit compartiment. Valeur moyenne de n est ainsi donnée par grand n fois valeur moyenne de xi et vaut donc grand n fois p. De même, delta n carré est donné par grand n fois delta xi carré, c'est-à-dire grand n fois p moins p carré. En conséquence, la fluctuation relative, delta n sur valeur moyenne de n, est toujours donnée par 1 sur racine de valeur moyenne de n. Faisons maintenant une application numérique. Je prends un volume V égal à 2 litres, qui contient environ 10 puissance 22 molécules de gaz. Je prends un volume petit v très petit, 1 micromètre cube. Je trouve alors que la probabilité petit p, qui est V sur grand V, est égale à 5 10 moins 13. Et puis, j'ai donc petit n molécules, Eh bien, lorsque je calcule la fluctuation relative, je trouve que c'est 1 sur racine de valeur moyenne de n, et je trouve 10-3, ce qui est quand même déjà significatif. Je vais maintenant appliquer les idées précédentes à la description d'une marche aléatoire. Il s'agit d'une succession de sauts indépendants, aléatoires, de longueur lambda. Typiquement, une personne qui marche vers la gauche ou vers la droite avec une probabilité P vers la droite, 1 moins P vers la gauche. En conséquence, la position grand X de la particule, en fonction du temps, a l'allure qui est présentée sur la figure. Et elle suit une loi binomiale, de sorte que la probabilité P de X va être donnée par une distribution gaussienne qui suit les principes qui ont été énoncés auparavant. Ici, la valeur moyenne de X, si les sauts sont équiprobables vers la gauche et vers la droite, est égale à 0. Et en conséquence, P de X sera donnée par exponentielle de moins x carré sur 2 delta x carré, avec un préfacteur 1 sur racine de 2 pi delta x carré, et delta x carré est donné par grand n fois l'écart type sur un saut, qui est égal à lambda carré. On peut décrire des marches aléatoires en dimension 2, en dimension 3. Ainsi, en dimension 3, la position R pourra être décrite sur un réseau discret par la somme de trois vecteurs Rx, Ry et Rz selon les trois directions. La probabilité P de R pourra s'écrire, moyennant l'hypothèse d'indépendance des sauts et d'isotropie dans l'espace, comme le produit des probabilités P selon la direction X, selon la direction Y et selon la direction Z, c'est-à-dire P de Rx fois P de Ry fois P de Rz. La probabilité P de Rx, Ry ou Rz est donnée par la distribution gaussienne que l'on vient d'étudier. Par ailleurs, R carré est égal à la somme de Rx carré, Ry carré et Rz carré, et l'écart type delta Ry carré peut être estimé dans la limite des grands nombres en considérant une hypothèse d'isotropie et de fluctuation négligeable comme le tiers de delta R carré. Il en résulte alors une expression simple pour la probabilité P du vecteur R qui est donnée par l'expression que vous avez sur cette diapositive. En lien direct avec la description des marches aléatoires, se trouve le phénomène de diffusion. C'est un problème qui a été étudié au début du XXe siècle par Einstein, Langevin et d'autres physiciens, et qui est intimement lié au problème du mouvement brownien qui avait été découvert au début du XIXe siècle par le botaniste Brown, qui avait observé des mouvements erratique de petites graines de pollen en suspension dans un liquide. Einstein a considéré, dans ses travaux de 1905, que ces mouvements étaient dus au choc des molécules voisines et étaient d'ailleurs le signe de l'existence des atomes, comme Jean Perrin l'a démontré dans les années qui ont suivi. Alors, si on revient à la marche aléatoire, on l'a décrite comme une succession de sauts indépendants de longueur lambda, et cette fois-ci on va ajouter le fait que ces sauts se font avec une durée tau, ou avec une fréquence 1 sur tau. En conséquence, on peut passer de la distribution P de x à une distribution P de x et du temps t, en écrivant que le temps t est égal à n fois la durée tau. En conséquence, P de x et de t s'écrit à l'aide de la gaussienne, en identifiant cette fois-ci un coefficient d égal à lambda carré sur 2 taux, tel que delta x carré, c'est-à-dire la valeur moyenne de x carré, est égale à 2dt. Ce coefficient grand D s'identifie au coefficient de diffusion. Les phénomènes de diffusion sont régis par l'équation de diffusion qui exprime la variation dans l'espace et dans le temps de la densité de matière ρ. En combinant la loi de Fick, qui exprime le courant de particules en fonction du gradient de particules et la conservation de la matière, on obtient l'équation d rond ρ sur d rond t égale d fois la dérivée seconde de ρ par rapport à la position x. L'analyse précédente permet d'identifier le coefficient d comme étant égal à lambda carré sur 2 taux. Mathématiquement, on est alors capable de calculer la distribution ρ de x et de t à partir de la distribution de matière à l'instant initial. Si l'on dépose à t égale 0 une goutte de colorant en x égale 0, on voit le colorant s'étaler en fonction du temps et la largeur de l'étalement varie en fonction du temps en racine de t. Cette dépendance en racine du temps est caractéristique des phénomènes de diffusion.